Des polars et des notes.
75e numéro de Des polars et des notes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Évasion, Radio Balise et Radio Laser. Ravi de vous accueillir pour ce Des polars et des notes et une heure de littérature noire, d'interviews d'auteurs et d'intrigues à faire frissonner un ours polaire. Quatre romans au menu, tout juste apparus sur les tables des libraires, aux thèmes et intrigues très différents, ségrégation raciale, amnésie, trafic de cam et affaire Dreyfus, tous unis par le suspense intense et la qualité de leurs intrigues et de l'écriture. En attendant d'être tous vaccinés, au rythme qui est le nôtre, il n'est jamais inutile de posséder une très longue liste de bouquins afin de meubler agréablement les interminables soirées de couvre-feu et les vacances à domicile. Comme à l'accoutumée, inutile de prendre des notes, vous retrouverez toutes les références des livres évoqués sur le webzine 404. Pierre-Yves, fidèle au poste, ayant traversé la pandémie, Tempête et Frimor est prêt à nous mitonner un son divin. Allez, sans tarder, un roman noir fabuleux d'une très grande voix de la littérature afro-américaine, Attica Locke, dont le dernier livre, Bluebird, Bluebird, vient de paraître aux éditions Liana Levy. Nous sommes au Texas de nos jours et le cadavre d'un homme noir vient d'être repêché dans le bayou. Affaire vite classée, noyade après passage à tabac pour vol, même si la victime a toujours son portefeuille et son argent, le shérif ne va pas non plus trop s'embêter avec l'assassinat d'un homme noir. Par contre, deux jours plus tard, c'est le corps d'une jeune femme blanche qui est découvert au bord du même bayou. Et là, c'est plus du tout la même affaire. Et on en voit Darren Matthews, le premier Texas Ranger noir, qui est un peu en délicatesse avec sa hiérarchie et qui risque de perdre son étoile. Et il est aussi en délicatesse avec son épouse, qui voudrait qu'il reprenne ses études de droit. Donc Darren va s'immerger dans l'atmosphère délétère de cette campagne Texas, où le passé pèse parfois plus lourd que le présent. Aucun manichéisme, Attica Locke, outre son formidable talent de conteuse, sait façonner des personnages complexes et explorer les tares et les failles des diverses communautés, sans exception. C'est un roman génial, plein de blues, et le titre lui-même est emprunté à John Lee Hooker, Bluebird, Bluebird.
Bluebird, Bluebird. Down in Atlanta, Georgia, Bluebird down on August Street. She might not be at home now, Bluebird, but please knock upon her door. She might not be at home now, Bluebird, but please knock on the door. She might be right across the street, visiting her next door neighbors, you know. Yes, take it away now, man. Come back home. Lord, I know there's something wrong. If he don't come back home pretty soon, Lord, I know there's something wrong. He been gone 2 weeks. Lord, he ain't brought me no news. Morning, I'm going down that sunny road. Come on, get up in the morning, get up in the morning. Going down that funny road. I heard from my bluebird. Lordy, ain't he come back home.
Voici une affaire qui aurait pu être la plus simple jamais vue par la police, un suicide devant 8 témoins dans une pièce fermée. Tellement simple que le commissaire Franck Ruffier a le sentiment de faire un cadeau à sa jeune protégée, le lieutenant Jeanne Ricoeur, en la lui confiant. Mais voilà, rien ne sera simple dans Memory, paru aux éditions du Cherche Midi. C'est ce que nous allons voir avec son auteur. Bonjour Arnaud Delalande.
Bonjour.
Alors, côté ambiance, des montagnes, de la neige, une tempête, blizzard, enfin, etc. Et côté personnage, des patients très particuliers dans une institution étrange. Vous avez vraiment voulu frapper fort d'entrée, hein.
Frapper fort d'entrée, je sais pas. C'est vrai que j'aime bien l'idée dans un... Alors moi, j'ai fait surtout du polar historique hein, jusqu'à présent. Donc là, c'est vrai que du côté, j'allais dire du polar contemporain, c'est un peu plus neuf. Mais j'aime bien penser que le décor dans un roman, quel qu'il soit d'ailleurs, historique ou policier, ou quelle que soit sa nature, le décor pour moi c'est un personnage, ça fait partie de l'intrigue. Donc c'est vrai que placer cette enquête dans un endroit comme celui-là, c'est-à-dire un établissement un peu étrange, qui est perdu dans la montagne, à un moment où en effet il y a une tempête qui approche, alors on pense à l'hôtel Overlook de Shining par exemple, vous voyez, avec ce rideau de neige qui tombe sans arrêt, un peu uniforme, etc. Et donc ces fameux patients qui abritent la clinique en question et qui sont victimes d'amnésie entérograde, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de mémoire immédiate et donc toutes les 5 ou 6 minutes, eh bien, ils perdent la mémoire et ils perdent le fil de leur existence.
Et moi, ça m'a rappelé même un peu Glacé de Bernard Minier. C'est un petit peu la même ambiance, un peu terrible. Donc, cet institut Harmodia, il est spécialisé, comme vous l'avez dit, dans les troubles de la mémoire entérograde. C'est-à-dire que les gens, ils ne se rappellent rien au bout de 4-5 minutes.
Oui, alors en fait, c'est parti d'un reportage que j'avais vu sur France 2, comme ça, un peu à la volée, qui m'avait profondément ému, parce qu'on y avait des témoignages de gens qui ont donc été victimes de lésions cérébrales ou d'AVC, de rupture d'anévrisme, etc. Il ne s'agit pas d'Alzheimer, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie dégénérescente, c'est tout à coup, vous avez eu un accident, un trauma. Et depuis ce moment, eh bien, la mémoire reboot d'une certaine manière toutes les 5 ou 6 minutes. Donc, ils se souviennent, ces patients se souviennent très très bien de tout ce qui s'est passé avant leur accident. Donc, ils peuvent très bien vous donner le nom de leur maîtresse en maternelle, la couleur de leur première chaussette. Mais, peut-être pas les deux premières marquées, une fois que l'accident est arrivé, eh bien, ils ont 5 ou 6 minutes de mémoire vive. Et donc, c'est bouleversant, si vous voulez, parce que pour vous donner une idée, par exemple, quand ils lisent un livre, au bout de 2 pages, ils ont oublié la page de laquelle ils sont partis. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt se raccrocher à des mémos, à des post-it, aux iPhones qui vont leur rappeler le fil de leur vie, les rendez-vous, etc. Et donc, c'est une espèce de lutte en permanence contre cette mémoire fuyante. Et une infirmière avec qui j'avais travaillé, qui m'en avait parlé, a eu cette formule que j'ai trouvée très heureuse et que j'ai remise évidemment dans le livre parce qu'elle s'impose, c'est ils sont figés dans un éternel présent. Et oui. Ça m'a fasciné.
Il y a d'ailleurs une anecdote que vous racontez qui est absolument terrible. C'est une journaliste qui a perdu son compagnon. Et chaque fois, chaque matin, il faut lui redire. Il lui redisait qu'il était mort. Et oui. Tous les matins, elle apprenait le deuil, quoi. Apprenait son deuil. Et au bout d'un moment, ils arrêtent parce que ça ne sert à rien. C'est juste la faire souffrir pour rien.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut se représenter que les relations humaines sont extrêmement compliquées, évidemment aussi dans ce contexte-là. Vous ne pouvez plus vous souvenir de l'anniversaire de vos enfants, il faut le noter. Et puis il y en a un autre justement qui est un ancien clown et prof d'histoire d'ailleurs. Qui il a noté que c'était l'anniversaire et puis il a oublié qu'en fait c'était le sien et pas celui de ton fils, donc il s'en mêle les pinceaux, etc. Ce que vous dites là, le personnage dont vous parlez, c'est pas issu d'un témoignage direct, là pour le coup c'est créé pour le roman, mais c'était pour donner une illustration aussi de la difficulté sentimentale. Donc là en effet c'est une reporter qui a perdu son caméraman et compagnon parce qu'elle a fait un reportage en Syrie qui a mal tourné, bon. Et puis au début elle ignore qu'il est mort et donc elle lui écrit des lettres et puis elles lui reviennent et tous les jours les soignants sont obligés de lui dire mais en fait il ne peut pas la recevoir, pourquoi? Parce qu'il est mort. Et donc quand ils comprennent que toutes les 5 minutes il faut lui et qu'elle revit son deuil implacablement, évidemment c'est inhumain, donc ils arrêtent. Alors finalement ils prennent les lettres et puis ils les entassent dans un coffret, quoi. C'est assez...
Et donc là, Jeanne Ricoeur, notre policière, arrive et il y a la victime, Marcus Kempf, et c'est un comptable de 45 ans, qui s'est pendu devant 8 personnes. Il y a 8 témoins et il n'y en a pas un qui se rappelle ce qui s'est passé. Alors, ils ont tous des smartphones, ils ont tous des carnets, ils prennent des photos, ils prennent énormément de photos, ils prennent plein de notes. Mais là, à part des photos du pendu, ils ont rien.
Ben c'est, voilà, c'est-à-dire qu'on est en face de cette jeune inspectrice qui vient de passer lieutenant, donc qui était une bonne flic, mais qui doit faire ses preuves en même temps sur une première enquête, et pas de bol, on lui glisse dans les pattes quelque chose d'impossible. En plus, elle est en deuil de son père adoptif, qui était lui-même un ancien flic, et elle a une mémoire très encombrante parce qu'elle a eu passé une enfance très difficile. Elle a été placée parce que ses parents biologiques étaient junkies, donc ils ont été déclarés inconsistants selon le doux vocable juridique, et elle a été arrachée à ses parents biologiques. Bref, donc elle a une mémoire qu'elle traîne, dont elle aimerait bien se débarrasser, et elle va se retrouver évidemment en face de gens dont le problème est absolument inverse, c'est-à-dire qu'ils donneraient tout pour retrouver cette mémoire qui les fuit en permanence. Et donc, en fait, de cadeau empoisonné, elle arrive devant ce pendu, on lui dit « il y a 8 témoins », donc elle dit « bah, s'il y a 8 témoins, qu'est-ce que je fais ici ?» Et « mais non, madame, vous n'avez pas très bien compris, les 8 témoins sont en effet des victimes d'amnésie entérograde. » Donc, ils ont tous vu, mais ils ne se souviennent pas.
Et pour ne rien gâcher, la directrice, Madame Hauteville, est quelqu'un d'assez énigmatique. Et l'infirmier qui était chargé de surveiller la fête, puisque c'était l'anniversaire, effectivement, s'était absenté pour téléphoner. Donc, ils n'ont absolument rien. Et il va falloir, effectivement, tout le jeu, je pense que vous avez voulu mettre en scène dans ce roman-là, c'est tous ces personnages qui courent après des souvenirs qu'ils n'ont plus, et le lieutenant Ricoeur qui se sent envahir. Plus elle est confrontée à ces gens qui perdent la mémoire, plus elle se sent envahie par des souvenirs dont elle ne veut pas.
C'est exactement ça. Et puis, il faut vous représenter aussi que dans ce livre, la difficulté, c'est que, comme vous l'avez senti, on n'est pas non plus dans un thriller avec le serial killer, les pampans et du gore, etc. C'est pas ce que j'ai voulu là. On est quelque chose qui est à mi-chemin. Il y a le fil de l'enquête policière, hein, qui doit satisfaire quand même aux obligations du genre, hein. Donc, on est dans un thriller, donc il y a quand même un certain tempo. Ça doit avancer, et de préférence avancer assez vite.
Ah, puis mais un personnage dans l'ombre aussi.
Voilà. Oui, bien sûr. Et puis bon, il y a des ingrédients. On va dire du thriller, mais ça devait faire jeu à part égale avec cette communauté. Or, on a 8 témoins, donc c'est un traitement qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de personnages, hein, un peu à l'Agatha Christie, si vous voulez, et du coup, il fallait à la fois tenir le fil de l'intrigue policière et puis le fil de ces drames individuels qui m'ont aussi beaucoup intéressé. C'est aussi l'occasion d'une plongée dans cette communauté qui est complètement à part, surtout qu'en plus, elle est confinée, alors si vous suivez mon regard, mais alors elle est confinée dans cet établissement où on risque de perdre la mémoire à tout instant, et environné de ces flocons qui tombent à n'en plus finir. Donc ça crée effectivement une ambiance un peu ouatée, un peu hallucinée, un peu hypnagogique, comme il est dit dans le livre, c'est-à-dire à mi-chemin, enfin c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas, à mi-chemin à certains moments entre le sommeil et l'éveil.
Oui, parce qu'elle est bloquée, évidemment, la tempête est arrivée, elle n'a pas mis de pneus neige, donc elle est bloquée là,
évidemment.
Elle est bloquée avec eux, elle est, à chaque fois, elle est renvoyée à son passé par eux, leur présent, qui n'arrivent pas à fixer. C'est presque plus tragique pour elle que pour eux.
Il y a quelque chose de cette ironie cruelle et tragique de la vie, c'est que, vous savez, on a une espèce de mantra à la mode qui est le mantra hédoniste du carpe diem, un peu, vous voyez. Bon, sauf que là, ils peuvent carper rien du tout, le diem, ça passe pas, parce qu'en fait, c'est toutes les 5 minutes, ça reprend. Et donc, c'est cette ironie et chacun essaie de se raccorder à un présent, et comme le dit Bergson aussi, vous savez, vous avez, qui êtes-vous quand vous avez le moi relatif, qui est celui du social, de l'évolution du moi à travers ces historiques, si vous voulez, et puis le moi absolu, est-ce qu'il existe et est-ce qu'il y a un dialogue entre les deux? Qui êtes-vous quand vous n'avez plus de mémoire ou quand votre mémoire vous fuit toutes les 5 minutes? Quelle est votre identité? Et donc cette question, elle la traîne, parce qu'elle même aussi la traîne, cette question de qui suis-je aussi, en quoi la mémoire nous construit comme être humain, et puis cette impression qui est partagée par tous, parce que là évidemment c'est presque apocalyptique, quoi, cette situation extrême où c'est toutes les 5 minutes, mais on meurt, n'est-ce pas? Et donc c'est ce rapport qu'on a au temps qui passe et au temps qui, comme dans le petit sablier qu'il y a dans le livre, qui vous glisse entre les doigts et où on cherche désespérément à se dire à quoi est-ce qu'on va se raccrocher. Et quand on ne peut plus se raccrocher à ses mémoires, au souvenir des siens et puis de ceux qui ont disparu, etc., eh bien évidemment, c'est une expérience limite. Et ça nous interroge sur ce qui fait notre humanité en filigrane, même si on est avant tout dans un thriller, évidemment.
Et vous allez me dire, mais moi j'ai eu l'impression que vous aviez travaillé aussi sur la notion de communauté, c'est-à-dire aussi bien Jeanne qui est confrontée à sa famille adoptive qui a disparu, à sa famille d'origine dont elle ne veut plus se souvenir mais dont des bribes reviennent, et à ces personnes qui forment une communauté mais qui ne se rappellent plus du jour au lendemain qui ils sont, qu'ils doivent vérifier sans arrêt sur le carnet ou sur une photo s'ils ont déjà vu la veille ou il y a 10 minutes cette personne-là, qui c'est, etc. Et ça forme, tout ça, ça forme quand même du vivre ensemble.
Oui, de même qu'ils ont tous des caractères, hein, parce qu'ils sont conçus pour ça dans le livre, mais pour certains, ils sont inspirés des témoignages que j'avais vus. Et donc, ils ont tous des forts caractères. Ils sont aussi un peu typés pour l'occasion, parce qu'ils me permettent d'illustrer différents types de rapports à la mémoire. Par exemple, les rapports entre la mémoire et l'art, avec le violon, avec la violoniste, parce que la musique, est-ce que la musique a besoin de mémoire? Elle est évanescente, elle est là sans être là, etc. Bon. Vous avez le rapport à Dieu, à la métaphysique, à la Bible, puisque vous avez un curé qui a eu le malheur de s'être trompé. Il a pris un orc sur la tête, donc le pauvre, depuis, il a des lésions, etc. Il y a un ancien trader, alors là, ce sont les chiffres, du coup, ils n'ont plus finir, ils n'ont plus de sens. Donc, à chaque fois, ça illustre chaque fois un rapport à la mémoire. C'est vrai que ce qui les rassemble, c'est ce trou de mémoire, en quelque sorte, qu'il y a là, mais vous avez raison, de manière incidente, en tout cas, ou plus ou moins consciente, forcément, ce thème de la communauté est là, parce que quand on ne peut plus, on a besoin du regard de l'autre pour exister. Et pour dans lesquels se reconnaître. Donc cette question de la reconnaissance mutuelle, d'ailleurs vous avez à la fin sans divulgâcher, comme on dit, non mais il y a une séquence comme ça qui pose cette question de la reconnaissance mutuelle. Et donc on a besoin de se lire dans le regard de l'autre. Et quand la mémoire vous fuit, quand le regard vous fuit, quand vous-même vous vous fuyez à l'intérieur, qu'est-ce qui reste de cette communauté? Et bien, il reste quand même en effet du vivant, il reste des caractères et des gens qui essayent désespérément de vivre ensemble. Donc c'est assez tragique, mais c'est assez beau en même temps. Et parfois grotesque aussi, parce que les interrogatoires, évidemment, confinent à l'absurde, parce que toutes les 5 minutes, on lui dit, mais alors elle a un badge avec marqué Jeanne policière, et toutes les 5 minutes, on lui dit, mais vous êtes qui? Ah, Jeanne policière. Ah, voilà. Ah, mais au fait, vous êtes qui? Ah, Jeanne policière. Et donc, hop, et ça recommence. C'est épuisant, épuisant. Et je sais que beaucoup de familles, moi, ça m'est arrivé à des très proches aussi, ont pu être frappés dans un autre style, comme je le disais, par la maladie d'Alzheimer. On sait à quel point c'est très dur pour l'entourage aussi, parce que le côté, c'est de devoir faire face inlassablement aux mêmes questions sans pouvoir répondre, crever ce mur de la mémoire, c'est quelque chose qui est très douloureux. Et Jeanne, évidemment, est confrontée avec en plus un enjeu, j'allais dire, professionnel, au sens où elle doit dénouer une enquête.
Et il y a risque, effectivement, parce que suicide, on voit bien que c'est pas un suicide, qu'il y a eu mise à mort. Et Jeanne, en fait, elle se retrouve devant une enquête où on pourrait dire qu'elle se retrouve devant un puzzle dont les pièces changent de forme à chaque instant.
C'est un puzzle, c'est-à-dire que, d'ailleurs, il y en a l'image aussi à l'intérieur du livre qui n'est pas là complètement par hasard, puisque à l'inauguration du centre Harmonia, il y a eu le puzzle cadeau d'arrivée, n'est-ce pas, d'inauguration. Oui. C'est à l'image, en effet, de ces mémoires, et le problème, c'est qu'il leur manque une case. Il leur manque toujours la case pour terminer le puzzle. Et donc, on recommence inlassablement un puzzle qui ne peut jamais finir. Donc, vous avez raison. C'est aussi à l'image de sa recherche à elle, puisqu'elle va cheminer dans ses méandres de la mémoire, jusque dans le rêve, quasiment dans la forêt de la mémoire, à un moment donné, pour essayer de retrouver les petits cailloux égarés par les uns et les autres. Et donc, ce cheminement aussi était intéressant. On sait que, par exemple, l'hypnagogie a été sollicitée par beaucoup d'artistes, de surréalistes en particulier, c'est-à-dire ce moment créatif qui se situe
entre le Dali, sommeil, par exemple.
Ouais, Dali, bien sûr, entre le sommeil et le rêve. Bon, alors là, on est dans un truc un peu terre à terre, parce que c'est quand même une flic de 30 ans, elle a un boulot, il y a eu une pendaison qu'on soupçonne être un meurtre, elle sent que derrière il y a un enjeu plus important. Donc, il y a ce fil toujours. De l'intrigue et où elle doit résoudre son énigme. Et puis de l'autre côté, il y a cette exploration d'une communauté, en effet, dans laquelle elle tombe et qui lui renvoie des choses et qui nous renvoie des choses que je trouve assez fécondes, en tout cas qui m'ont fait beaucoup réfléchir.
Eh bien, merci beaucoup, Arnaud Delalande. Je rappelle, le titre de votre livre, c'est Memory. Ça ne va pas forcément changer les lecteurs d'idées, les lecteurs sur le confinement, parce que effectivement, c'est un petit peu enfermé, mais enfin, ça va au moins changer de paysage. C'est Memory aux
éditions. Il y a la montagne.
Il y a La Montagne, il y a la neige aux éditions du Cherche Midi. Et on va écouter une musique, une chanson très très belle qui est dans ce livre. C'est Barbara,
ah,
mon enfance.
Ah, oui. Oh, magnifique. Enfin, merci beaucoup.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'ambre, et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée. Le puits tout, j'ai tout retrouvé, hélas. La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi. Et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes pâles aux années perdues, oh mes 15 ans, mes mains réveillent, que j'ai mal d'être revenu. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'attirez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je reste seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue, seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici, où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant?
On quitte ni la montagne, ni la neige, et encore moins le froid, puisque nous allons faire un petit tour dans la petite Sibérie française, la région de Bout, Pontarlier, etc., dans le Jura, où se déroulent de drôles de trafic et qui sert de décor à La Bête en cage, paru aux éditions du Seuil, le deuxième roman de Nicolas Leclerc. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors vous êtes né à Pontarlier, hein, donc c'est, oui. Vous êtes le régional de l'étape là.
C'est ça.
Vous connaissez bien la région. Et oui. En dehors du côté polar, qui est vraiment très, 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 très présent, il me semble que vous aviez envie un peu de raconter aussi les énormes difficultés que rencontre la population dans cette montagne qui est très, très difficile à vivre, les problèmes sociaux, le problème des agriculteurs.
Oui, alors il y avait plusieurs choses. C'est qu'effectivement, ça reste quand même des régions reculées, puisque c'est quand même la montagne avec des conditions météorologiques qui peuvent être un peu compliquées. Et il y a aussi tout un contexte sociologique aussi qui fait que c'est quand même une région frontalière. Donc il y a des grosses disparités entre les gens, c'est-à-dire entre les gens qui travaillent côté français, ceux qui travaillent côté suisse, les Suisses qui viennent côté français. Enfin, voilà, il y a forcément tout un terreau qui est très intéressant, voilà, pour traiter un polar et un le côté sociologique d'une population, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on voit tout de suite parce que un de vos personnages principaux, c'est Samuel.
Ouais.
Samuel, il est éleveur, il a été obligé de reprendre la ferme de ses parents. Et chaque jour qu'il travaille, ben, il s'endette un peu plus.
Ouais, c'est ça, parce qu'il part de zéro, c'est-à-dire que lui se destinait pas forcément à reprendre une ferme au départ, et les circonstances ont fait que voilà, il s'y est plongé corps et âme, et que ça n'a pas été facile, puisque il a rencontré plusieurs problèmes, puisque son associé l'a quitté, donc il fallait quand même rembourser
Les traites,
les prêts, tout ça. Derrière, il y a eu l'incendie de sa ferme. Enfin voilà, il y a eu plusieurs difficultés successives qui ont fait qu'il se retrouve aujourd'hui endetté, quoi.
oui. Et à côté, il y a son cousin Simon, qui est vraiment un bon à rien, un crétin, un flambeur. Mais vraiment, le type, on a envie de le claquer dès qu'on le voit, quoi. Et
Bah, c'est réussi
qui.
alors.
Enfin, un peu, non? Vous l'avez fait
Ah
comme ça?
bah oui, je l'ai caractérisé comme une tête à claque, oui, on peut le dire.
Ouais, et lui travaille en Suisse
Oui.
et lui il gagne énormément de pognon quoi.
Oui, et il gagne du pognon, mais il vit largement au-dessus de ses
Ah
moyens,
bah oui.
néanmoins.
Ah bah tant
Le
qu'à
pognon
faire.
appelle le pognon.
Tant qu'à faire en étant idiot,
C'est
forcément
ça.
on s'arrange comme ça. Et donc Samuel, ce brave Samuel qui lui travaille comme une bête de somme, doit sa survie uniquement à un prêt que lui a accordé, enfin à des prêts, même je pense que lui a accordé son oncle Claude, qui est patron d'une entreprise de BTP.
Ouais.
Mais je vous avais montré que rien n'était gratuit.
Et non, puisque la contrepartie, c'est qu'il doit aider donc ce cousin et l'oncle à passer de la drogue de la Suisse à la France. Et donc lui, il gère surtout la partie stockage, quoi. C'est-à-dire que le cousin ramène la drogue qui stocke dans la ferme pour ensuite la faire transiter sur Lyon ou sur Paris, quoi. Donc voilà, ouais, il rend service entre guillemets, quoi.
À son corps défendant, je dirais, lui, il veut arrêter et
Oui.
on lui signifie que bah non, c'est pas possible parce que,
Ben non.
ou alors il rembourse tout le pognon, ce qui est totalement irréalisable,
Oui.
ou alors il continue, quoi. C'est genre, on s'en va
Exactement,
pas de ce métier-là, quoi.
ouais, c'est ça, il se retrouve un peu pris dans un étau. Enfin, quelque part, il aimerait s'en sortir, il aimerait rentrer quelque part dans le droit chemin, mais voilà, les circonstances font que ce n'est pas possible, quoi.
Et donc, au début de ce roman, là, Samuel est convoqué et il sait l'histoire d'une grosse, grosse livraison,
Ouais.
un truc comme ils n'ont pas l'habitude, 105 kilos.
Ouais.
Et c'est absolument impossible de la perdre et que ce soit. Et bien évidemment, il va
On
se le
la perd.
passer. Et évidemment, évidemment, Simon n'arrive pas, Simon est en retard.
Ouais.
Et Samuel décide, malgré tous les ordres, d'appeler Claude, quoi.
Ouais. Et c'est là que ça commence à partir en
Et c'est là que
sucette.
ça part en sucette, c'est vraiment le battement d'ailes de papillon.
Ouais, exactement. Bah oui, c'était de partir vraiment d'un. Voilà, que l'orage se grippe au fur et à mesure, que le petit grain de sel se mette dans les rouages et que ça déraille complètement la machine, quoi. Et plus on essaye de réparer les problèmes, et plus on en crée des nouveaux, quoi.
Oui, j'ai l'impression que vous avez construit ça comme, vous savez, les suites de dominos.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est un engrenage infernal. Dès qu'on en bouge un, le reste de la structure commence à vaciller. On en retire deux.
Ouais,
Ouais.
et il y a des dominos qui n'ont rien à foutre là,
C'est ça.
mais alors vraiment pas, genre Chloé, qui est la belle-fille,
Oui,
enfin, à peu
c'est
près
ça.
de Samuel, une jeune toxico, pas méchante, mais qui se retrouve prise là-dedans. Il y a Anan, un dealer, etc. Et ces gens-là sont emportés dans une tourmente absolument terrible.
C'est ça, c'est que plus l'histoire avance, et en fait, plus il y a des personnages extérieurs ou qu'on croit extérieurs au début, et qui vont s'amalgamer sur cette histoire-là, entre ceux qui a le chargement, qui s'intéresse, qui veut le récupérer, qui passe des accords, qui voilà.
Mais
Disons que ça amalgame beaucoup d'éléments extérieurs, quoi, et que ça le tourbillon en fait grandit au fur et à mesure de l'histoire.
ouais, et le problème principal au départ, c'est le manque d'avenir, quand
Oui.
même, pour la plupart des gens
Ouais.
qui habitent dans ce coin-là. Il n'y a pas l'idée qu'on puisse s'en sortir autrement
Bah, c'est vrai
qu'en.
que c'est là, enfin, dans ce roman-là, en tout cas, une vision extrêmement noire, voilà, de la société, parce que oui, tous les personnages ont beaucoup à perdre, et en même temps ont beaucoup déjà perdu. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent quasiment au bout du tunnel, et que ça représente quelque part un dernier espoir ou un dernier sursaut, quoi.
Ouais, c'est assez pessimiste quand même. En fait,
Oui.
j'ai l'impression que vous avez, parce que, enfin, vous le démontrez d'ailleurs très bien, c'est qu'il y a très peu de liens, aussi bien sociaux que sentimentaux, qui résistent au pognon.
Ouais, c'était vraiment. J'ai vraiment construit l'histoire sur cette, enfin, sur quelque chose de crapuleux, quoi. C'est-à-dire vraiment ce chargement de drogue qui vaut, voilà, qui vaut des millions d'euros. Tout le monde le veut, quoi. Est prêt à tout pour mettre la main dessus et par là même changer de vie, quoi. En fait, le but de chaque personnage quelque part, c'est de changer de vie. C'est d'améliorer sa vie et d'aller voilà, de s'extirper en tout cas de là où ils sont, quoi.
Et peu importe le prix.
Et peu importe le prix,
Quoi
oui.
qu'il en coûte, comme dirait l'autre.
Alors voilà, quoi qu'il en coûte. Exactement comme dirait l'autre.
Et moi, il y a un personnage que j'adore, c'est Chloé, parce que
Ouais.
on a l'impression un peu comme ça qu'elle est paumée. Et c'est à peu près la seule, à mon avis, qu'elle a la tête sur les épaules.
Oui, et c'est voilà, c'est quelque chose. Enfin, toute l'histoire, c'est en réalité construite autour d'elle, quoi. Enfin, pour moi,
Pour moi, c'est l'héroïne vraiment
c'est
du.
ça. Bah, moi, je l'ai construite. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte un peu de le cacher. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mentionnée en général dans les résumés. C'est pas le personnage qu'on met forcément en avant dans le pitch de départ, puisque tout part de l'histoire du cousin. Et j'aimais le fait qu'on la découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire c'est un personnage mystérieux au départ et dont on va comprendre l'implication au fur et à mesure. Et pour moi, oui, c'est elle qui mène l'histoire, en fait.
Mais c'est pas par hasard si en fait c'est votre personnage le plus largué qui est celui qui est la seule qui garde la tête froide.
Qui est le plus humain aussi,
Oui,
à mon
parce que
sens.
elle est pas méchante, elle est même
Non.
plutôt empathique, elle s'occupe très bien d'une très vieille dame.
Ouais, c'est un personnage beaucoup plus complexe. Enfin, c'est un personnage qui était beaucoup plus complexe aussi à créer. Parce que c'est elle qui a un peu toutes les cartes quelque part, enfin, qui a un peu le nœud de toute l'histoire. Et en même temps, c'est celle qui va, on va dire, sans trop en dévoiler, mais qui va ouais, effectivement garder la tête sur les épaules et sortir la tête de l'eau, quoi.
Oui, et c'est la seule qui va
C'est la
résister parce qu'on
battante!
s'aperçoit que les gros jojos, etc., ils résistent pas très longtemps.
Non, ouais. Non, c'est sûr que c'est un peu David contre Goliath. Hein. On a ici des adversaires qui
Ah, des
sont,
vrais méchants.
ouais, des vrais méchants et beaucoup, beaucoup trop, quelque part, beaucoup trop forts pour les personnages principaux, quoi.
Bah, disons qu'eux, ils n'ont pas. Les méchants que vous avez mis en scène, ils n'ont aucun scrupule. Ils
Non.
n'ont pas d'éthique ni de retenue morale, alors que Samuel, par exemple, est quelqu'un qui est complètement dévoré par le fait qu'il fait quelque chose d'illégal et qu'il n'a pas
Oui,
envie de le faire.
c'est ça. On est d'un côté sur la culpabilité, l'autre sur l'absence de remords, sur sur le business en fait. C'est des businessmen. Hein. Il y a le business, ça se rajoute à ça une histoire de vengeance derrière. Mais disons que oui, les antagonistes sont pas du tout sur le même niveau que les personnages qui eux vont avoir des questionnements humains quoi. En tout cas, des questionnements personnels, enfin des vraies comment dire interrogations morales quoi.
Oui, c'est ça. Les Kosovars, les deux frères, là, ils n'ont absolument aucune morale.
Non.
Alors
Bon,
vraiment.
après, je me suis construit ma petite histoire qui n'est pas forcément dans le livre, mais sur leur origine, sur tout ça. Mais c'est vrai que dans la façon dont je les ai construits là, c'est qu'ils devaient représenter un vrai danger sur lesquels enfin, en permanence, en fait. Donc pour moi, oui, c'était vraiment l'incarnation physique du danger que représente ce chargement de drogue, quoi.
Mais est-ce qu'il y a vraiment un trafic, une zone comme ça. Parce que moi, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu dans les codes du country polar, la Matthew McBride ou David Joy,
Ouais, bah c'est.
des
Alors c'est.
campagnes isolées qui deviennent des centres de trafic ou de production de meth et les flics qui sont jamais
Bah,
là.
très clairement, c'est ma référence centrale. Hein. C'est importer ce genre de roman dans le Jura, quoi. Donc, oui, clairement, David Joyce, j'ai en tête quand j'écris ce roman-là. Donc c'est pas du tout un hasard si vous retrouvez les codes. De tous, voilà, des Benjamin Whitner, des David Joy, des Chrysophute, des genres comme ça, parce que c'est de la littérature que je lis, donc je l'ai essayé de la transposer quelque part. Donc est-ce que ces réseaux existent? Alors dans mes recherches, il y a quand même voilà, il y a des réseaux qui existent en Franche-Comté, hein,
Ouais.
incontestablement, pas à ce niveau-là, mais voilà, il y a régulièrement des saisies de drogue, des choses comme ça dans la région de Besançon et même de Morteau, Pontarlier, quoi.
Parce que David Joy, j'ai plus le titre en tête où il y a un bouquin où il y a un fils qui est obligé de reprendre le trafic à son
Oui.
père et il n'a pas du tout envie de le faire. Et je me suis
Oui.
retrouvé un peu avec Samuel.
Ouais.
Samuel m'a fait exactement penser à ça.
Ouais, bah oui, non, c'est. Et en plus, je crois que il y en a un que j'ai lu pendant que j'écrivais. Enfin, j'en avais lu un avant et j'en ai lu un deuxième pendant que j'écrivais. Donc, enfin, oui, c'est un des. Enfin, vous avez mis le doigt dessus. Oui, là, c'est un des écrivains qui m'a vraiment influencé pour celui-là, quoi.
Mais c'est vraiment frappant, hein. Et en plus, c'est très bien fait. Est-ce qu'il y a une morale à votre histoire?
Ah, bah, je pense qu'une fois qu'on a lu la fin, je pense qu'on se dit qu'il y en a une. Pour moi, elle est à chercher du côté de la famille, enfin, du côté des liens
Ouais.
familiaux et de la loyauté et Ouais, ce genre de choses.
Et il n'y en a pas beaucoup qui le méritent.
Non. Exactement.
Parce qu'on ne peut pas dire que il y en a beaucoup qui passe à travers le filtre, ne serait-ce que de la première couche d'éthique, il n'y en a presque pas.
Ouais, là-bas, disons que la résistance est difficile parce que la tentation est très grande. Pour le coup, ouais, c'est aussi pour ça que je voulais un gros trafic de drogue, c'est qu'il fallait quand même que l'appât soit à la hauteur des enjeux, quoi.
Et va y avoir une suite?
Non, j'ai pas prévu de suite pour celui-là. En fait, j'aime bien écrire des histoires uniques à chaque fois et me replonger dans un nouvel univers. Enfin, vraiment ressortir de ce que j'avais fait avant et aller complètement dans autre chose. Donc la suite, c'est pas quelque chose qui me titille trop.
Ah, mais le décor, c'est un vrai personnage, hein.
Ouais. Ah, par contre, je reprendrai le Haut-Doubs et le Jura, voilà, en hiver. C'est quelque chose que je réutiliserai par contre parce que
Ah ouais, parce que
c'est quelque chose qui est
là.
très visuel et qui rend vraiment des impressions oppressantes. Enfin, oui, c'est comme vous dites, c'est un vrai personnage.
Ah,
Donc
c'est
pour
un
moi,
vrai
c'est.
personnage de l'histoire, hein. Il influe tout. D'ailleurs, c'est à cause de lui. Tout ce qui se passe, c'est lui.
Ouais.
Si on regarde bien.
Oui, c'est le froid, c'est sombre, c'est austère, c'est tout ce qu'on veut. Mais oui, c'est tout sauf chaleureux et accueillant, quoi.
Ah, c'est absolument étouffant. Donc, je rappelle le titre de votre roman, c'est La bête en cage qui est paru aux éditions du Seuil. C'est de Nicolas Leclerc. Et dedans, il y a deux morceaux, dont Petite conne de Renaud qu'on va écouter tout de suite. Merci beaucoup, Nicolas Leclerc.
Merci à vous.
Tu m'excuseras, mignonne, d'avoir pas pu marcher derrière les couronnes de tes amis branchés, parce que ton dealer était peut-être là, parmi ces gens en pleurs qui parlaient que de toi, en regardant leur montre, en se plaignant du froid, en assumant la honte de t'avoir poussé là. Petite conne, tu leur en veux même pas, tu sais que ces charognes sont bien plus morts que toi. Tu fréquentais un monde d'imbéciles mondains, où cette poudre immonde se consomme au matin, où le fric autorise à se croire à l'abri, et de la cour d'assises et de notre mépris. Que ton triste univers nous inspirait malin, en sirotant nos bières ou en fumant nos joints. Petite conne, tu rêvais de Byzance, mais c'était la Pologne jusque dans tes silences. On se connaissait pas aussi, tu me pardonnes, j'ai pas chialé quand t'as cassé ta pipe d'opium. J'ai pensé à l'enfer d'un téléphone qui crie, pour réveiller ta mère au milieu de la nuit. J'aurais voulu lui dire que c'était pas ta faute, qu'à pas vouloir vieillir, on meurt avant les autres. Petite conne, tu voulais pas mûrir, tu tombes avant l'automne, juste avant de fleurir. Et t'aurais-je connu que ça n'eût rien changé, petit enfant perdu, m'aurais-tu accepté? Moi j'aime le soleil tout autant que la pluie, et quand je me réveille et que je suis en vie, c'est tout ce qui m'importe, bien plus que le bonheur, qui est affaire de médiocre et qui use le cœur. Petite conne, c'est oublier que toi, t'étais là pour personne et que personne n'était là. Pu pleurer en suivant les couronnes de tes amis branchés, parce que ton dealer était peut-être là, à respirer ces fleurs que tu n'aimerais pas, à recompter ces roses qu'il a payées au prix de ta dernière dose et de ton dernier cri. Petite conne, allez, repose-toi, tout près de Morrison et pas trop loin de moi. petite conne, allez, repose-toi, tout près de Morrison, et pas trop loin de moi. Petite conne, allez, repose-toi, tout près de Morrison, et pas trop loin de moi. Petite conne, allez, repose-toi, tout près de Morrison, et pas trop loin de moi.
Alors, on fait un petit voyage dans le temps et nous voilà en 1898. La France est coupée en deux par l'affaire Dreyfus. La défaite de 70 contre les Prussiens n'est toujours pas digérée. Et la République fragile, vacillante, peine à s'imposer. À Lyon, en ce 1er janvier, du côté de la Croix-Rousse, un chiffonnier fait une macabre découverte. Et ainsi débute la République des faibles, parue à la Manufacture des Livres, et son auteur, Gwenaël Bulteau, est avec nous. Bonjour Gwenaël.
Bonjour.
Alors, c'est le commissaire Jules Soubiel qui est tout juste arrivé à Lyon avec son épouse Marie-Thérèse qui va s'occuper de l'affaire. Et on s'aperçoit vite que le fait qu'un enfant soit tué, c'est pas vraiment ça n'est pas vraiment un grand intérêt.
Oui, c'est vrai que à cette époque-là, à la toute fin du 19e siècle, les faibles, c'est-à-dire les femmes et les enfants, ils n'avaient pas beaucoup de valeur aux yeux de la société. C'est vrai qu'ils étaient faibles déjà physiquement et ils étaient faibles aussi juridiquement. Leur parole, elle ne valait rien. Alors, la mort d'un enfant, les souffrances d'une femme, c'était pas vraiment quelque chose qui préoccupait la société à cette époque-là.
Ouais, Soubia, il le dit, les priorités sont claires, l'ordre social, la tranquillité publique, la sécurité des commerces.
Oui, bah c'est ça, exactement. À cette époque-là, il y avait, en plus de l'antisémitisme et de l'antigermanisme, il y avait une lutte sociale qui était très très importante. Quand les prolétaires faisaient grève, on envoyait souvent la troupe pour réprimer ces soulèvements.
Oui, et comme un fou.
Il y avait souvent des morts, comme à Fourmi, par exemple, à l'origine du 1er mai, où il y a eu un massacre épouvantable où des enfants sont morts. D'ailleurs, il y a un personnage dans le roman qui était, pendant son service militaire, qui a tiré sur la foule et ce souvenir l'a marqué et le déséquilibre, en fait, pour le reste de sa vie.
Oui, le pauvre, et alors que c'est le meilleur. Donc Pierre Demange, c'est un chiffonnier, en jour de l'an il découvre un cadavre d'enfant mutilé et dans une décharge, et cette découverte donc ne suscite pas énormément d'émoi, mais pourtant la police va s'y intéresser un peu parce que c'est un peu particulier. C'est un garçon, il est habillé avec une robe, et puis en plus il y a le lieutenant de Soubiel qui s'appelle Fernand Grimbert et qui, lui, a envie de fouiner un petit peu quand même, hein, non ?
Oui, c'est vrai que mes enquêteurs, mes policiers, ils sont modernes pour l'époque. Eux, le travail de police qui les intéresse, c'est de résoudre des crimes et d'essayer de rétablir un petit peu la justice dans ce monde. Donc, bon, le commissaire, lui... C'est dans mon esprit, c'est le fondateur d'une nouvelle police, hein, de la police judiciaire. Et ces lieutenants, tous les deux, ont à cœur justement de défendre les faibles.
En fait, son équipe, vous l'avez fait, à mon avis, un petit peu à l'image de la France de cette époque-là.
Pardon, j'ai pas bien entendu, excusez-moi.
L'équipe du commissaire, vous l'avez fait un petit peu à l'image de la France de cette époque-là.
Oui,
il y a un antisémitisme.
C'est vrai que les policiers sont représentatifs, hein, ils subissent leur époque. Donc c'est vrai qu'il y a une part des policiers qui est dans la répression, dans l'antisémitisme, et une autre part qui est un petit peu plus moderne, ce qui correspond effectivement à la scission de la société dont vous parliez tout à l'heure par rapport à l'affaire Dreyfus. Entre les gens qui se rangeaient derrière l'armée, en fait, tout simplement, on ne pouvait pas toucher à l'armée, l'armée c'était sacré, et ceux qui se rangeaient qui se disaient que l'antisémitisme, c'était réellement un problème en France. Donc il y avait cette dualité dans la société, et cette dualité, effectivement, on la retrouve dans ma politique.
Et d'autant plus qu'en ce début d'année 1898, il y a un procès qui va avoir lieu, c'est le procès d'Esterhazy, qui est un des acteurs clés de l'affaire Dreyfus, puisque c'est lui, en fait, qui devait être accusé à la place de Dreyfus. Et les nationalistes d'extrême droite attendent de pied ferme le verdict pour savoir s'ils allaient renverser, parce que la République semble vraiment bien, bien faible.
C'est vrai. Esterhazy, c'est lui qui a accusé Dreyfus. C'est lui qui est le grand manipulateur dans cette histoire. Mais en fin de compte, l'armée était au courant. Le problème de l'armée, c'est qu'elle ne voulait pas se déjuger. En fait, elle ne voulait pas se déjuger parce que c'était porter atteinte à son honneur.
Donc, dans l'équipe du commissaire Soubiel, il y a Gabriel Silin, qui est surnommé le tueur de juifs, qui est carrément entré en politique, lui, qui est suppléant d'un candidat nationaliste d'extrême droite, qui s'appelait Bergeron. Et c'est en ça que votre roman est très actuel, parce qu'il montre un peu des clivages qui existent encore aujourd'hui, où cette milice-là d'Antoine Bergeron parle d'anti-France, d'ennemis intérieurs, où il mêle les juifs, les protestants, les étrangers, les internationalistes, aujourd'hui ce serait les migrants, etc. Et tout il résume en disant tout ce qui est acharné à détruire la France. Et c'est, en ça, autrement, il est très très actuel.
Oui, alors c'est vrai que cette société du 19e siècle, elle m'intéressait beaucoup parce qu'elle était chargée de tensions. Il y avait ce poids tellement important en fait du rejet des autres que ça influence en fait le destin et le comportement des personnages. Et par rapport à cette société du 19e siècle, elle est proche de la nôtre. Elle est proche de la nôtre parce qu'elle est un peu fondatrice de la nôtre. Et toutes ces tensions, c'est vrai qu'elles résonnent encore aujourd'hui. Tout ce qui est le rejet de l'autre, tout ce qui est dans la société, également les violences que l'on fait aux femmes, c'est des choses qui perdurent en fait dans notre monde et qui explosent encore aujourd'hui. Alors on le voit avec toute la libération de la parole, par exemple, autour de la maltraitance de l'enfance et des souffrances infligées aux femmes.
Oui, parce qu'à cette époque-là, il faut dire que c'est quand même incroyable. Il y a des maisons closes à Lyon spécialisées pour les pédophiles.
Oui, alors en fait, il n'y avait pas d'âge limite à l'époque pour les relations sexuelles. Et dans le fait qu'elles soient spécialisées, je ne sais pas, mais on pouvait trouver des très très jeunes filles dans certaines.
Ouais, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que vous dites dans votre livre. Enfin, un des flics dit dans votre livre, il y a des adresses, on sait où c'est, où on peut trouver des enfants.
Où on peut trouver des enfants, mais. C'est vrai que quand c'était un enfant dont personne ne voulait, encore une fois, on en revient donc à sa faiblesse, au fait qu'il n'y ait personne pour le défendre, et cet enfant était complètement exploité. Donc oui, ce sont des choses qui existaient. Bien sûr.
Et donc l'enquête se poursuit sur ce petit garçon. Il y a un fait qui est énorme, c'est qu'il y a un policier qui est tué et une adolescente qui est kidnappée. Et donc ça fait que votre équipe de police, elle va courir un peu partout et vous en arrivez, ça vous permet d'écrire absolument toute la société. Donc aussi bien les organisations politiques ouvrières qui commencent un petit peu à se structurer. Moi, je pensais qu'elles étaient déjà un peu plus évoluées que ça à l'époque, parce qu'il y a eu la commune quand même. Et vous montrez aussi très bien le climat de détestation de l'allemand, alors qu'on est quand même 30 ans après la défaite de 70. Et il y a quand même un climat qui est terrible, quoi.
Ah ben, c'est clair que le climat est terrible. Et cette société, c'est ce qu'elle offrait à ses membres par rapport au ressentiment anti-allemand. Il y a un personnage qui est emblématique dans mon livre, c'est celui de de l'ancien combattant qui souffre d'une espèce de syndrome
post-traumatique, ouais, évidemment.
C'est un syndrome un peu à la Rambo, si j'ose dire. Il a commis des massacres, il a commis des atrocités pendant la guerre. Il revient chez lui et en fait, il est incapable de s'en remettre, il est incapable de faire preuve de résilience parce qu'il y a la société qui est là et qui insiste bien sur le sentiment anti-allemand, qu'il faut se préparer à la guerre, qu'il faut récupérer l'Alsace-Lorraine, qu'il faut effacer la débâcle, quoi.
Oui, et puis le personnage du petit chien là, qui s'appelle Bismarck, et son maître fait des spectacles où pour un sou, on pouvait lui mettre un coup de pied.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un livre de Georges Darien, qui était un anarchiste, un écrivain anarchiste assez connu à la fin du XIXe siècle, qui avait écrit des livres pour dénoncer les bagnes militaires et qui avait écrit un livre donc sur la débat qui s'appelait Biker. Et de promener son chien avec une croix, avec une décoration militaire prussienne. Donc, pour dire comment on se représentait encore les Allemands à l'époque.
Et donc, le personnage, enfin moi, un des personnages que je préfère, c'est bien évidemment le lieutenant Grimbert, parce que il est très fragile aussi, il est un peu l'image de la République. Il est alcoolique, il a une vie de couple compliquée, mais il fait tout ce qu'il peut quand même pour défendre les faibles, et c'est un des seuls.
Oui, c'est vrai que c'est un personnage qui est fragile. Et lui, il est en plein paradoxe. Hein. Donc, il a ce souvenir où il a tiré sur la foule qui le hante. Et il a une relation avec une femme qu'il aime à sa façon, qu'il aime assez mal en fin de compte. Donc, il est en plein paradoxe parce qu'il fait partie de cette police. Donc tout un pan fait partie des ligues et extrémistes et se bat pour l'ordre public, en fait, l'ordre public et l'ordre social. Et d'un autre côté, lui, il a une attirance pour les faibles, pour les aider, pour les sauver, hein, pour remettre un peu d'ordre dans le monde. Donc lui, il est en plein désordre, mais il a cette volonté de mettre un petit peu d'ordre dans le monde, mais c'est difficile.
J'ai l'impression, est-ce que vous n'avez pas voulu un petit peu faire un petit peu le combat de l'ordre bourgeois tel qu'il était établi à cette époque-là et le début d'un commencement d'idée de la justice?
Oui, il y a l'ordre bourgeois avec la volonté des petits bourgeois de grimper les échelons, de s'extraire de leur rang. Et de l'autre côté, c'est vrai que il y a le début du socialisme avec le début de la naissance des organisations ouvrières, de la conscience de classe. Et donc, deux mondes qui s'opposent et qui s'affrontent, qui ne se comprennent absolument pas.
Oui, ils se comprennent, c'est deux mondes.
Mais là, on est vraiment dans la toile de fond du roman de manière un peu plus.
Oui, et il y a toute la. La traque et l'enquête de police qui est au-dessus, et c'est absolument passionnant parce que il y a un autre personnage, c'est le climat, le climat dans cette sorte de bidonville où habitent les gens et où enquêtent les policiers, et qui montre les mœurs de l'époque qui sont extrêmement dures, extrêmement difficiles pour les gens.
Oui, c'est vrai. La vie des pauvres gens, la vie des ouvriers. Elle était absolument pleine de souffrance. Et ces personnages sont évidemment des faibles. Et c'est de leur donner une voix à ces gens-là, une voix à ces ouvriers, à ces femmes qui souffrent, à ces enfants, de les faire parler, de les faire relever, et pour certains, peut-être de réussir un petit peu à s'émanciper, à vivre un petit peu mieux.
Un petit peu, à espérer un autre monde, en tous les cas. Merci beaucoup, Ganel. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre.
Merci à vous.
C'est La République des faibles, paru à la Manufacture des livres de Gwenaël Bulto. Alors, nous venons d'écouter The Velvet Needle in a Haystack, que j'ai sans vergogne aucune piqué dans un formidable polar dont je voulais juste vous dire un mot. C'est Le Corps et l'âme de John Harvey, qui est paru aux éditions Payot et Rivage dans la collection Rivage Noir, qui est traduit de l'anglais par Fabienne Duvigneau. C'est la raconte la dernière enquête d'un vieux flic, Frank Elder, qui voit sa fille suspectée du meurtre de son amant, un peintre de renom dont elle est également le modèle. C'est absolument extraordinaire, à lire de toute urgence. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si tout se passe bien, le printemps ne sera pas loin à la prochaine émission. Bye bye!
Des polars et des notes.